Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. 20% de la production minière mondiale est issue de ce qu'on appelle des mines artisanales, des mines où l'on creuse de manière rudimentaire, sans grands capitaux financiers. Sur la planète, selon les chiffres dont on dispose, 100 millions de personnes dépendent directement de cette activité pour gagner leur vie. La plupart des images qui nous parviennent de ces mines artisanales mettent en scène la misère des creuseurs, souvent le très jeune âge de beaucoup d'entre eux et aussi le climat de violence qui entoure certains de ces gisements. Mais ces images résument-elles la réalité ? Pas vraiment, si l'on en croit une étude qui vient d'être publiée à Paris par deux universitaires, deux économistes, Rémi Basilier et Victoire Girard. Ces deux économistes ont enquêté au Burkina Faso et pour la première fois, cette étude dresse un bilan positif de l'impact économique de ces mines artisanales. Nous allons donc parler de cette étude et au-delà de l'univers des mines artisanales avec l'un des auteurs. Bonjour Rémi Basilier.
Bonjour.
Rémi Basilier, vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes un spécialiste de l'économie du développement que vous enseignez donc, et avec vous dans ce studio, Benjamin Hénault, bonjour.
Bonjour.
Benjamin Hénault, vous êtes consultant senior chez Synergie, un bureau d'études qui conseille les entreprises privées qui interviennent dans des environnements difficiles, voire risqués. Vous êtes en particulier spécialiste des questions minières, spécialisation que vous avez acquise en travaillant pour des organisations internationales, des ONG ou pour des entreprises du secteur privé. Alors au cours de cette émission, nous allons donc parler longuement de l'étude de Rémi Basilier et Victoire Girard au Burkina Faso. Nous nous demanderons si ces conclusions peuvent être généralisées. Nous rejoindrons évidemment Yaya Boudani à Ouagadougou, ça s'imposait. Laetitia Berzin nous attend à Antananarivo et je vous réserve la surprise de quelques archives sonores. Rémi Basilier, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'étude que vous m'avez confiée, qui a été finalisée au mois de mai dernier. C'est positif, donc, au contraire de toutes les images qu'on a en tête, d'exactions, de groupes militaires, paramilitaires, de guérillas qui se financent sur ces mines artisanales. Vous concluez que ces mines ont un impact positif sur l'environnement économique des zones où elles se trouvent.
Alors, nous, on regarde effectivement une dimension bien particulière qui est le niveau de vie des populations qui vivent à proximité immédiate de ces mines artisanales. On regarde cette situation, du coup, au Burkina Faso, qui est dans le pays dans lequel vous avez eu un véritable boom de l'or dans les années 2000 et dans lequel on a eu une très forte augmentation de cette production minière en or, qu'elle soit artisanale mais également industrielle. Donc, oui, effectivement, nous trouvons dans cette étude que les populations qui vivent à proximité immédiate de ces mines artisanales voient leurs revenus augmenter sensiblement de l'ordre de 15% par rapport à la situation de ceux qui vivent plus loin de ces mines artisanales. Voilà, ce qui ne nous permet pas évidemment de répondre sur bien d'autres dimensions de ces mines. Nous nous concentrons ici sur le niveau de vie des populations locales et effectivement, il y a besoin de quantifier un petit peu quel pouvait être l'impact pour ces populations et dans le cas de notre étude, nous montrons qu'il est positif.
Alors, vous n'avez qu'à parfaitement répondu à la question que je vais vous poser. C'est naturel. Pourquoi avoir choisi le Burkina Faso ? Vous nous avez dit qu'il y avait eu un boom de la mine et des mines d'or en particulier. Mais pourquoi ce pays-là ? Pourquoi pas avoir choisi le Mali ? Pourquoi pas un autre pays de la région.
Ce qui est très intéressant dans le cas du Burkina Faso, c'est qu'on sait que c'est un pays qui est très riche en ressources en or. Et la décennie des années 2000 a été très particulière, puisqu'il y a eu cette explosion du prix mondial de l'or qui a eu des conséquences très importantes sur la structure de production ici au Burkina Faso. Picasso. En l'espace de 10 ans, on voit une production d'or industriel qui était nulle au début des années 2000, qui atteint aujourd'hui 30-35 tonnes chaque année. Et on voit du coup une multiplication par un facteur très important aussi de cette production d'or artisanal. Donc on a une véritable ruée vers l'or, avec simultanément la multiplication des sites de production industrielle d'or. On passe de zéro mine ouverte au début des années 2000 à 8 mines en activité au milieu des années 2010, et aussi une explosion du nombre de sites de production artisanale. On était à 200-300 au début des années 2000. Selon les estimations, on est autour de 700 ou 1000 sites localisés au Burkina Faso.
Ça veut dire que le sol burkinabé est truffé de mines artisanales?
Exact. Alors, il est truffé d'or déjà. Et ça, il y a des ressources géologiques qui sont particulièrement intéressantes pour la production d'or. Et effectivement, on estime aujourd'hui entre 700 et 1000 sites de production. Donc, c'est pas sur l'ensemble du Burkina Faso, mais on voit très bien. Ça suit. Il y a certaines roches qui sont localisées au Burkina et on voit cette multiplication sur ces zones géographiques particulières.
Benjamin Hénault, quand je vous ai proposé de participer à cette émission, vous vous êtes dit enthousiasmé. Pourquoi ?
Oui, très enthousiasmé, parce que les mines artisanales, c'est un sujet énorme aujourd'hui au niveau international, qu'on ne peut plus contourner. Alors je voudrais juste rappeler, vous avez donné une estimation de 100 millions de personnes dépendant directement de l'activité. C'est probablement beaucoup plus que ça, mais on n'a pas vraiment de chiffres. On estime entre 40 et 100 millions de creuseurs actifs. La chaîne de valeur qui termine dans nos portables, dans nos véhicules, enfin dans toute l'utilisation des minerais qu'on peut faire, cette chaîne de valeur impliquerait entre 6 ou 7 emplois indirects.
C'est-à-dire pour chaque creuseur.
Pour chaque creuseur, on aurait 6 ou 7 travailleurs.
Derrière.
En aval, on dirait.
D'accord.
Au niveau local, l'activité minière artisanale s'exerçant en majorité dans des pays en voie de développement, on estime à 5 ou 6 dépendants par creuseur. Mais disons qu'on peut estimer à plusieurs centaines de millions de personnes le nombre de personnes qui dépendent directement de cette activité.
Et pas seulement en Afrique.
Alors l'Afrique est sans doute un des continents où l'activité est la plus répandue, mais l'Amérique latine, l'Asie, la Mongolie, la Chine, l'Indonésie, l'Inde, voilà. Alors ce sont des dizaines de millions de creuseurs et donc des centaines de millions de personnes qui dépendent de
l'activité. Vous corroborez ces chiffres, Rémi Basilier ?
Tout à fait, effectivement, on a cet ordre de grandeur-là. Dans le cas du Burkina Faso, on est à les estimations nous qu'on a fait à partir des données d'enquête qu'on avait, c'est plus de 3 millions de personnes qui vivraient directement ou indirectement ici de cette activité
sur
minière artisanale.
Donc
on est en grand, là on est à 18% de la population du Burkina qui dépendrait, en comptant effectivement 15. Les dépendants, hein, mais ouais. on est dans une population ici extrêmement significative, et c'est des chiffres qu'on retrouve aussi dans les différents pays qui ont été mentionnés.
Alors, on va évacuer, je vais dire, tout de suite la question des groupes armés, parce que c'est évidemment quelque chose auquel on pense immédiatement. C'est pas le cœur de cette émission, parce que je voudrais qu'on soit plus large et qu'on se focalise pas sur cet aspect beaucoup plus sensationnel, mais très important. Quel est le pourcentage, Benjamin Hénault, des mines qui sont en rapport avec des groupes armés en Afrique?
Alors, j'aimerais répondre à deux niveaux. D'abord, on n'a pas de chiffres, malheureusement, à donner exact ou précis sur la question. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des zones fragiles dans lesquelles la gouvernance est faible et où les mines artisanales s'inscrivent dans un contexte de gouvernance faillie ou faible et qui donc inclut des risques de ce type. Aujourd'hui, il y a d'autres zones de tension qu'il faut quand même signaler. Alors, la zone du Sahel, qui montre des signes de fragilité, mais aussi qui montre une activité minière artisanale assez intense, hein, le Burkina, le Mali et d'autres pays de la région, mais aussi des zones comme le Myanmar aujourd'hui, la Birmanie, ou encore la Colombie, Donc, il y a des zones qui présentent ces fragilités, mais encore une fois, j'aimerais simplement ajouter que les mines artisanales ne sont pas créatrices de cette violence, mais en sont une démonstration dans un contexte de fragilité existant.
On va tout de suite aller sur le terrain, maintenant, puisqu'on parle du Burkina Faso. On va à Ouagadougou, retrouver Yahia Boudani. Au Burkina, on le disait, les sites d'exploitation artisanale de l'or sont disséminés à travers tout le pays. Dans la commune de Guibaré, au centre nord du pays, les habitants du village de Karantanga exploitent une de ces mines. 1000-2000 personnes. Impossible de dire combien sont au travail. Il y a les jeunes du village, mais aussi des gens venus d'ailleurs, d'autres villes du pays, des pays voisins. C'est un reportage éco-disséco d'ailleurs, signé Yahia Boudani.
De nombreuses femmes du village travaillent sur le site d'exploitation d'or de Karantanga. Mariam Savadogo est chargée de concasser le minerai sous la surveillance de Maïmouna Zagré, l'une des gestionnaires des stocks.
Il y a beaucoup de travail qu'on fait. On pile les cailloux et puis s'il y a écrasé, on aide les garçons à écraser. Par jour, s'il y a travail, on peut gagner au moins 3 000 au moins. Dans un mois, s'il y a travail, on peut avoir au moins 25 000.
Vraiment, ça va. Je m'en sors. Avec ça, je paye l'école de mes enfants. Je m'occupe de moi-même et puis je m'occupe aussi de ma famille. Depuis que j'étais à Ouaga, j'ai beau travailler. Je ne pouvais même pas gagner 150 000 par mois. Mais ici, là, le mois, comme c'est pour gagner 150 000, 125 000, si ça va, quoi.
Malgré la mauvaise pluviométrie et la crise alimentaire qui menace certaines régions du pays, grâce à l'exploitation de cette mine artisanale, les populations de ce village arrivent à s'approvisionner en produits de première nécessité. Mahama Ouedraogo est le secrétaire du comité villageois du développement.
Bon, ils arrivent à acheter leur mil, leur maïs. Donc ça fait qu'ici, présentement en tout cas, on ne sent pas bon, la famine en tant que telle comme ça. Ce qu'on souhaite seulement, c'est que le maïs et puis le mil viennent pour que les gens puissent payer.
Ici, l'or est acheté à 22 500 francs, soit 34 euros le gramme. Un prix d'achat qui permet aux populations de subvenir à leurs besoins quotidiens. Youssouf Ouedraogo est l'aîné d'une famille de 8 enfants. Il travaille comme intermédiaire pour l'achat de l'or.
Donc à travers ces 200 000 que moi je gagne par mois, j'ai des frères qui sont au collège et c'est moi qui dois gérer ça. Ils sont au nombre de 8. Voilà, il y a une, là voilà qui est là, celle qui tient la glacière là. Donc elle fait la première. Voilà, il y a un autre aussi, voilà lui qui est là. Voilà, lui aussi fait la seconde. Et à l'école primaire, j'ai au moins 3 là-bas. Voilà, et les autres là, c'est 6e, 5e.
Nourou Ouedraogo est un jeune de la commune de Guibaré. Il empoche entre 500 000 et 1 million de francs CFA par mois. Avec ce qu'il gagne, il a déjà investi dans une quincaillerie et une boutique de vente de téléphones.
On a déjà fait une boutique de quincaillerie. Et puis, je vends encore des portables. Tout ça, c'est sorti dans l'or.
Sur le site, plusieurs machines transforment en poudre le minerai sorti de terre, des fosses d'environ 80 mètres de profondeur. Les différents moulins tournent à plein régime et le sac de roche est écrasé à 6 000 francs CFA selon Mesa Yabri.
Si tu as 3 machines, tu peux avoir par jour 20 sacs, soit 10 à 15 sacs. Voilà, si on multiplie par les sommes, en tout cas, à la fin de la journée, on peut gagner quelque chose. Chaque jour que Dieu fait, à l'air là, dans la saison comme ça, je peux avoir au moins 30 000, 25 000.
L'exploitation de la mine artisanale de Karantanga a permis la réalisation de plusieurs infrastructures dans le village. D'autres projets à l'échelle de la commune de Guibaré sont prévus.
Grâce à la mine, en tout cas, déjà, bon, on a pu quand même aider le village à faire la construction d'un CG. Au niveau de la commune, on a déjà prévu la construction d'une école. Donc, on attend maintenant au conseil municipal de décider dans quel village ils veulent qu'on fasse ça.
Avec le début de la saison des pluies, la mine sera fermée pour plusieurs mois. De nombreux jeunes retourneront à l'agriculture en attendant sa réouverture au mois d'octobre.
Un reportage signé Yahia Boudani. On entend les coups de marteau des creuseurs. Rémi Basilier, vous pourriez intégrer ce reportage dans votre étude ?
Tout à fait, et on retrouve beaucoup de choses qu'on observe, nous, à travers les données que nous avons à notre disposition. Donc, il y a une activité économique dynamique qui permet aussi aux personnes concernées de faire toute une série d'investissements, et c'est très intéressant d'entendre ça dans votre reportage. Moi, ce que je voulais signaler, remarquer vraiment deux choses en écho à ce reportage. Première chose, c'est que cette activité artisanale est souvent extrêmement saisonnière. Donc c'est une activité qui va se faire pendant certaines périodes de l'année. Votre reportage dit qu'effectivement la mine de toute façon est fermée pendant la saison des pluies. Mais au-delà de ça, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une activité qui va se faire en complément à une autre activité. Donc il n'y a pas de substitution par rapport notamment aux activités agricoles, ce qui est aussi un aspect très intéressant. Et la deuxième chose, c'est que dans les chiffres que nous proposons, l'effet qui est observé sur le revenu des personnes concernées ne vient pas forcément directement du revenu généré générés par la mine elle-même. C'est des effets qui sont liés à l'activité économique que cela génère dans le village. Et que ce ne sont pas forcément les orpailleurs qui voient leurs revenus augmenter. Mais, nous, ce qu'on met en avant dans notre étude, les personnes qui vont le plus bénéficier de cette activité, c'est des gens qui travaillent, soit dans le commerce, soit dans les services au niveau local, et qui du coup bénéficient un petit peu de ce dynamisme de l'activité créé au moment où les orpailleurs sont sur place.
Alors, c'est très spectaculaire quand même dans ce reportage, un jeune homme qui réussit à financer les études de toute sa famille grâce à cette activité.
Effectivement, un très bel exemple. Les chiffres qu'on trouve en ordre de grandeur, c'est en moyenne beaucoup plus modeste que cela.
Donc, ouais, parce que là, ils sont 8.
Effectivement. Il y a une activité qui va être à un moment très concentrée, encore une fois très saisonnière, qui peut générer dans certains cas effectivement un revenu très important. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'elle va être aussi l'effet moyen au niveau d'une zone géographique donnée, au niveau d'un village, y compris pour des gens qui ne travaillent pas directement dans ces mines. Mais des bons exemples comme ça, il y en a, effectivement.
Benjamin Hainaut, c'est spectaculaire ce qui est dit dans ce reportage, parce qu'il y a ces creuseurs, il y a ces familles qui profitent des ressources générées pour aller à l'école, et puis il y en a même qui capitalisme qui réussissent à investir, à créer des commerces en bonne et due forme.
Oui, ce reportage et ce que vient de dire Rémi Basilier aident à déconstruire quelques mythes sur l'orpaillage ou l'activité minière artisanale en général. Le mythe du chercheur d'or qui fait fortune tout seul, hein, la ruée vers l'or à l'américaine, bon, souvent c'est pas comme ça que ça se passe. Alors ça peut arriver dans le diamant, mais globalement c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des filons, il faut travailler dur, hein, et à beaucoup. Donc il y a une organisation derrière l'activité minière artisanale, c'est aussi quelque chose. Alors l'autre mythe à déconstruire, c'est l'enfant travailleur. Alors, comme tout mythe, il s'inscrit dans une réalité. Il y a beaucoup trop d'enfants dans les mines artisanales dans le monde. Mais ça n'est que la conséquence de fragilités existantes. Et ce qu'on constate dans beaucoup de mines artisanales, c'est ce que le reportage vient de souligner, c'est que les revenus engendrés par l'activité minière artisanale, en complément des revenus agricoles, permettent une meilleure sécurité alimentaire et financière.
Et une scolarisation.
Et une scolarisation d'enfants. Alors, encore une fois, il faut que le terreau, enfin je dirais que le terrain sur lequel s'inscrivent ces activités soit suffisamment robuste. Hein.
Oui, parce qu'en plus des activités privées, cette mine, ce que gagnent les creuseurs, permet visiblement d'améliorer les infrastructures communales, Rémi Basilier.
Alors, nous, on n'observe pas directement, ouais. Mais il y a aussi un problème d'observation et de mesure aussi de ce niveau d'infrastructure. C'est des choses qui peuvent effectivement se produire dans la mesure où on observe une augmentation du revenu général d'une population donnée. Donc, tout dépend après de la capacité aussi des communautés à s'organiser et à utiliser cet argent pour investir dans les infrastructures. Nous, de manière plus modeste, on observe surtout une augmentation du niveau de vie, donc du niveau de consommation, pour des niveaux qui restent aussi extrêmement faibles. On est aussi dans les zones dans lesquelles il y a ces niveaux, l'activité de mine artisanale sont aussi en moyenne des zones qui, avant le boom, étaient plus pauvres. Donc ça permet une sorte de rattrapage en termes de niveau de consommation, voilà, qui est déjà beaucoup. En termes d'infrastructure, nous, en tout cas, notre étude ne permet pas de le dire.
C'était Codici Eco d'ailleurs sur RFI. Nous parlons des mines artisanales en Afrique. Deux invités dans cette émission, Rémi Basilier, professeur d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Benjamin Hainaut, consultant senior chez Synergie. Voilà un autre exemple de mine artisanale. Au Mali, cette fois-ci, près de la frontière avec la Guinée, sur le site de Coflatier. Le Mali est le troisième producteur d'or d'Afrique. L'extraction représente 15% du PIB, 70% des recettes d'exportation, grâce notamment à la présence de sites industriels. Plusieurs centaines de milliers de Maliens fouillent cependant la terre pour tenter d'améliorer leur quotidien dans des conditions souvent très pénibles. C'est un extrait de l'émission de RFI « C'est pas du vent » du 1er juin 2014, un reportage signé à l'époque David Bachy.
Où est-ce que nous sommes ici?
Nous sommes à Coflaté, c'est un village de la commune de Kanyoro, 150 km à peu près de Bamako. Bon, c'est un site d'orpaillage traditionnel. Le village même à Coflaté est un village qui a été créé uniquement pour les besoins d'orpaillage.
Bon, ça veut dire qu'ici, il n'y a que des chercheurs d'or artisanaux.
Oui, il n'y a que ça ici. Ils sont venus exprès depuis longtemps, le village est assis sur l'orpaillage. Rien que l'orpaillage seulement.
Vous-même, vous travaillez ici et vous êtes originaire de la zone.
Oui, moi je suis du cercle de Kangaba, je suis un agent de développement. J'y viens fréquemment pour des activités de sensibilisation. Au sein de l'ONG Groupe Action Développement, qu'on appelle la JAD, Groupe Action Développement.
Et alors, ce site-là sur lequel on se trouve, pour qu'on prenne un peu la mesure, il y a, selon vous, combien de personnes qui se trouvent ici ?
Bon, des milliers, à peu près 3000, 4000, sinon même plus. On ne saura jamais exactement combien ils sont dans ce site-là. C'est l'un des plus importants sites de Kangaba.
Les gens vont et viennent et arrivent surtout plus nombreux chaque année ?
Vrai, c'est ça. Les gens vont et viennent et arrivent plus nombreux au fur et à mesure que les prises sont consistantes. On vient d'entendre d'ailleurs que quelqu'un hier soir aurait pris 3 kilos. Dès que cette nouvelle sera répandue, vous allez voir, il y aura plus de personnes encore qui vont affluer vers ce site-là.
Là, où est-ce que vous nous emmenez ?
Bon, on va aller d'abord voir les trous dans lesquels on extrait de la terre.
Les puits où les mineurs cherchent.
Les puits. Dans les puits, il y a plusieurs genres d'activités avant que la terre n'arrive à la surface de la terre. Il y a les creuseurs et puis il y a les coupeurs. Les creuseurs, ce sont ceux qui creusent un endroit donné, un endroit qui a été montré par les tombements. Donc, les premières personnes, ce sont ceux-là avec des pioches qui creusent l'endroit. Mais maintenant, arrivé à une certaine hauteur où il est susceptible d'avoir de l'or, il y a ce qu'on appelle les coupeurs. Ce sont des spécialistes également qui sont chargés de cela.
Et eux, ils coupent la terre pour récupérer les morceaux susceptibles de contenir de l'or.
C'est exactement ça, c'est juste. Ils coupent la terre pour faire remonter. Et ensuite, à la surface, il y a les gens qui sont là pour faire remonter la terre. Très souvent, c'est les femmes.
Et là, on est en train d'arriver sur ces sites avec les puits.
Oui, comme vous le voyez, il y a des trous un peu partout. Les gens sont rouges de terre parce que ce sont ceux-là qui creusent.
Un reportage donc signé David Bachet qui remonte au mois de juin 2014 et qui était diffusé à l'époque dans l'émission C'est pas du vent. Benjamin Neno, il y a une hyper spécialisation, semble-t-il, dans ces mines, des milliers de gens avec une répartition du travail.
Oui, il y a une vraie organisation sociale hein, de l'activité. Alors, spécialisation, je dirais peut-être pas ça, notamment parce que généralement, ce sont quand même des métiers peu qualifiés. Mais il y a en tout cas des tâches extrêmement diverses et réparties. Ça va du... Bon, on l'a entendu dans le reportage, hein, le creuseur, la boiserie...
Le creuseur, c'est celui qui est au fond.
Le creuseur qui est au fond. Il y a tout un tas de mécanismes qui sont mis en œuvre pour extraire, pour creuser. Donc on a besoin de bois, on a besoin de beaucoup de transport, on a besoin de motopompes, donc on a besoin d'essence. Donc tout ça inclut une économie du transport. Sur les sites mini-artisanaux, il y a des cantines ou des restaurants, donc une économie aussi de subsistance. Hein, et voilà. Donc c'est des métiers très diversifiés, en effet.
Ce que soulignait Rémi Basilier, ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est qu'on voit donc le partage des tâches. Mais est-ce qu'il y a l'amorce d'un capitalisme local, Rémi Basilier ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Est-ce qu'il y a une accumulation du capital qui se fait ?
Ah oui. Il y a une activité dynamique, beaucoup basée aussi sur l'informalité, donc une sorte d'organisation qui se crée. Et ce qu'il y a de l'accumulation du capital en tant que tel, c'est difficile à dire. Et je pense que, encore une fois, dans la technique de production, les techniques de production qui est utilisée, on est encore extrêmement loin de ce qu'on peut entendre en termes de production industrielle d'or, évidemment. Donc ça reste une technique de production qui est très intensive en travail essentiellement non qualifié, ce qui n'empêche pas par ailleurs de pouvoir faire des investissements. Hein, et il y a un besoin minimum en termes de capital, mais il n'y a pas de logique, je dirais, d'accumulation du capital en tant que tel.
Ce qui est aussi impressionnant, c'est que ça n'est pas un feu de paille, c'est que les gens reviennent année après année.
Oui. Alors, il y a aussi dans les mythes qu'on doit déconstruire, cet afflux de richesse, il n'est pas uniquement quand les orpailleurs sont sur les sites. Nous, dans les données qu'on observe, la collecte des données du revenu des ménages se fait à un moment où l'activité de minière n'est pas existante. Donc les migrants temporaires.
Vous faites ça pendant la saison des pluies.
Exactement. Donc les ceux qui viennent uniquement uniquement pour extraire l'or ne sont plus là au moment où on mesure le niveau de revenu et de consommation des individus. Donc ce n'est pas uniquement cet afflux migratoire qui peut exister dans certaines zones, moins dans d'autres, qui va expliquer cet afflux de richesse. C'est vraiment un effet ici de multiplicateur. C'est ce revenu crée du revenu qui permet d'augmenter le revenu des gens, et ce revenu permet ensuite aux gens de consommer, y compris quand les orpailleurs ne sont plus là.
Benjamin Deno.
Oui, juste sur l'accumulation du capital. Alors, c'est extrêmement variable, je dirais. Variable en fonction de plusieurs choses. D'abord en fonction des mentalités. Donc en fonction voyez, des sociétés dans lesquelles s'inscrit cette activité, il y a des comportements plus ou moins épargnants et qui vont plus ou moins favoriser l'épargne et le capital et l'accumulation du capital. Et ça dépend aussi des systèmes d'exploitation, évidemment. Donc de la structure et de l'organisation de la mine artisanale. Et là, on rentre sur la question de la formalisation et de la gouvernance. Donc encore une fois, souvent, malheureusement, l'exploitation minière artisanale, je pense, ne favorise pas suffisamment l'accumulation du capital, parce que les conditions ne sont pas réunies. Et encore une fois, il n'y a pas de fatalité là-dedans. C'est des choses sur lesquelles il faut travailler.
Mais ces mines artisanales, les gens affluent, il y en a qui vont au fond, et puis est-ce que ce sont ceux qui font le travail le plus dur qui sont le moins bien rémunérés? Comment se répartit l'argent? Comment se répartissent les gains?
Alors, la variable principale, c'est le financement. Comme souvent dans l'économie. Donc, moins l'activité est formalisée et plus elle s'inscrit dans un contexte de fragilité, plus il y a des risques d'exploitation. Et on parle souvent, je parlais du mythe du brigand armé, enfin j'en parlais pas moi-même d'ailleurs, mais vous en parliez. Ce mythe-là est une réalité quand les conditions ne sont pas réunies pour une exploitation saine, ce qui implique, par exemple, du travail forcé, de l'esclavage. Donc ce sont des situations qui existent dans l'artisanat minier et qui sont liées à un besoin du creuseur d'être financé, donc à un manque d'accès au crédit et...
Rémi Basilier.
Oui, je pense qu'il faut aussi insister sur le rôle des comptoirs qui permet aussi, par lequel se fait la commercialisation de l'or. Ils jouent un rôle très important ici. Ils peuvent aussi en partie organiser l'activité sur place sur un site particulier. Dans le cas du Burkina, un certain nombre de mines artisanales sont déclarées auprès du ministère des Mines. Donc on a environ 400 mines qui sont effectivement déclarées. C'est pas les orpailleurs eux-mêmes qui déclarent, c'est ceux qui tiennent ces comptoirs et qui leur permet d'avoir une sorte de monopole aussi sur la production, l'organisation de la production au niveau local. Et qui leur permet aussi de récolter une sorte de taxe sur l'activité.
Donc les comptoirs, c'est des intermédiaires.
C'est des intermédiaires de commerce, effectivement. Mais qui, du coup, sont souvent aussi ceux qui détiennent le titre. Qui ont fait effectivement les démarches administratives pour avoir ce droit d'extraction auprès du ministère des Mines.
Alors c'était Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI, nous parlons des mines artisanales avec Rémi Basilier et Benjamin Eno. On va marquer une petite pause musicale avec un groupe d'origine Touareg, Tinari Wen, dans un morceau qui s'appelle Sastanaka.
Tiniri sastana kam yaktifu tumi diwan le tasni tile da shakwa inayan warani sinjayi tsana tabar sukoz tarandag shinawan tiniri sastana kam yaktifu tumi diwan le tasni tile da shakwa inayan warani sinjayi tsana tabar sukoz tarandag shinawan
C'était donc le groupe Tinariwen, un groupe d'origine touareg, dans un morceau qui s'appelle Sastanakam. Dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, où nous parlons des mines artisanales avec Benjamin Neno et Rémi Basilier. Nous continuons notre voyage dans l'univers des mines artisanales en partant à Madagascar, un pays qui est connu pour son sous-sol très riche en minerais. Il y a de l'or, des saphirs, d'autres pierres précieuses. Et la plupart des mines dans ce pays, dans ce vaste pays, sont artisanales. Le secteur, qui est informel, emploie, estime-t-on, 500 000 personnes. Dans les années 90, la découverte de gisements de saphirs, notamment dans le sud du pays, puis dans d'autres régions, a déclenché de véritables ruées vers ces terres aux apparences d'Eldorado. Mais les pierres précieuses de ces mines informelles sont loin de profiter aux mineurs ou même à l'État malgache. Elles échappent au contrôle des autorités et à l'impôt et sont exportées illégalement vers l'étranger. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Laetitia Bezin, Antananarive.
Saphir bleu, violet, rose ou jaune, c'est pour ces pierres précieuses que Rin a décidé de quitter Antananarive pour les mines à ciel ouvert, dit la CAQ. Cette localité du sud du pays renferme l'un des plus gros gisements de saphir au monde.
Les ampes creusent partout, des trous à 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres. Il y a beaucoup d'exploitants miniers qui sont morts sous sol. Il y a des écroulements des terres. Quand on était là, j'ai trouvé du saphir un peu et j'ai pu revendre à un acheteur revendeur à Sri Lankais 1 500 000 ariary. J'ai connu le prix plus tard, 15 millions d'ariary.
1 500 000 ariary, soit 400 euros. Le saphir de Rin a ensuite été revendu près de 4 000 euros par l'intermédiaire étranger. Village d'une dizaine de personnes il y a 20 ans, Ilakak, victime de la fièvre du saphir, est aujourd'hui une grande ville minière de 60 000 habitants.
Tout le monde pense gagner beaucoup d'argent. Beaucoup de gens sont dessus. C'est pas un revenu régulier. Si on ne trouve pas de saphir, on n'a pas assez d'argent pour vivre. On doit trouver autre chose à faire. Et moi, je fais un travail d'épicerie. Et je fais les va-et-vient à Tana et Lakak. Même si les saphirs sont vraiment achetés à des prix très chers sur le marché international, les étrangers qui viennent achètent les saphirs à très très bas prix.
Des étrangers qui exportent illégalement ces pierres précieuses. Adranjarson, responsable du programme foncier et ressources naturelles à Transparency International, est l'auteur d'une étude sur le secteur minier artisanal à Madagascar.
Ces ressources sortent du pays que par l'intermédiaire de la corruption. On a une référence en 2013 que Madagascar perdait près de 250 millions de dollars sur l'or et les pierres précieuses.
Sur les 20 tonnes de saphir exportées en 2017, seules 2 tonnes ont été déclarées auprès du ministère des Mines et du Pétrole. Julien Rakotou Arimanan est le directeur général des mines au sein de ce ministère.
On ne reçoit rien de ces mines, on ne reçoit pas de redevances, de taxes, d'impôts, rien. Ce sont les autres qui en profitent. Alors que presque la majorité de ces étrangers n'ont pas le droit de travailler ici à Madagascar. Leur visa, c'est des visas des touristes. Pour vous dire la réalité, les 2 tonnes de saphir qui passent par nous, ce sont les petits cailloux de rien du tout. Il n'y a personne qui apporte des pierres chem. C'est sûr aussi qu'il y a des combines par-ci, par-là, à l'aéroport, au port, etc. C'est pour ça que j'appelle le patriotisme des responsables, parce que c'est vraiment ça qui manque ici à Madagascar.
Il y a de la complicité ou de la corruption.
C'est sûr, parce que quand même, des pièces qui coûtent des milliards d'ariary, c'est-à-dire des millions de dollars, pour faire passer ça à la douane, au port, à l'aéroport, ça passe par des responsables.
L'objectif du ministère, formaliser ces mines et créer des groupements de mineurs artisanaux. Un défi de taille vu son faible budget, un peu moins de 3 millions d'euros en 2017.
Un reportage à Antananarive, signé Laetitia Bezin, Benjamin Neno. C'est un gros problème quand même, le fait que toutes ces ressources échappent aux États, à l'État malgache. Et plus généralement, j'imagine, aux États africains qui sont concernés par ces mines artisanales.
Oui, c'est un énorme problème aujourd'hui dans la plupart des mines artisanales, enfin des régions minières artisanales, disons. C'est un problème qui est accentué par qui peut être accentué par les différences de taxation entre les pays, qui peut être aggravé.
C'est-à-dire que la contrebande,
C'est-à-dire que la contrebande, bon, les cas les plus connus, les plus significatifs sont c'est l'or de la RDC, hein, qui part vers l'Ouganda et puis Dubaï. Tout ça est très bien documenté. Alors, on estime entre 20, 30, 40, 50 tonnes d'or qui échapperaient. Donc, on est à 1 milliard en valeur marchande, potentiellement à 50 tonnes, hein. Donc, c'est quand même pas rien. 1 milliard de dollars.
Oui. 1 milliard de dollars pour la valeur de la marchandise, mais pour la marchandise. Moins pour les taxes qui...
Voilà. Donc, moins, mais enfin, je vous laisse faire le calcul en fonction du niveau d'imposition.
Et au Burkina Faso, Rémi Basilier, une étude de l'Institut de la Statistique de la fin de l'année dernière révélait que seulement le tiers de l'or produit artisanalement passait par le circuit commercial officiel et que le reste était écoulé clandestinement, en partie vers des pays voisins comme la Côte d'Ivoire, justement.
Oui, alors effectivement, c'est un problème. Après, je pense que c'est aussi un problème à relativiser au regard de la production artisanale, au regard, par exemple, de la production industrielle. Dans le cas du Burkina, les chiffres qu'on a à disposition, on est à 38 tonnes, en gros, de production d'or. Là-dessus, il y a 204 kilos d'or issu des mines artisanales. Donc même si on suppose que ce chiffre est sous-estimé, on est dans quelque chose qu'on est dans moins de 1% de la production d'or au niveau du Burkina. Donc après, effectivement, les estimations qui sont faites, c'est que 0,5% de la production artisanale revient in fine aux États. Donc c'est un taux de taxation globale qui est beaucoup plus faible que ce qui peut être observé pour les mines industrielles. Voilà, c'est quelque chose à replacer dans le contexte. Nous, ce qui nous semble plus important, c'est effectivement ces effets de dynamisme au niveau de l'économie locale, parce qu'on est dans des ordres de grandeur qui sont beaucoup plus faibles que ce qui est observé pour les mines industrielles.
Justement, ce qui est intéressant aussi dans votre étude, c'est le parallèle avec les retombées des mines industrielles. C'est beaucoup plus important, les retombées économiques locales sont beaucoup plus importantes dans le cas des mines artisanales que dans le cas des mines industrielles.
Tout à fait. Dans notre étude, effectivement, on ne trouve aucun effet au niveau local. Donc dans un périmètre de 25 km autour des mines industrielles, on n'observe aucun effet lié à l'ouverture de ces mines industrielles et à l'augmentation ici de la production dans ces mines industrielles.
Donc, comment vous l'expliquez?
Alors, on sait effectivement du fait des techniques de production qui sont utilisées, où c'est des techniques de production beaucoup plus intensives en capital, et donc très peu intensives en travail. Il y a beaucoup moins besoin de main-d'œuvre. Les équipements qui sont effectivement achetés ne sont pas achetés localement. Donc il y a des effets de diffusion au reste de l'économie qui sont extrêmement faibles. Donc voilà, il y a des mines industrielles qui fonctionnent un petit peu comme des enclaves, avec très peu d'effets effectivement sur l'économie locale.
Benjamin Hainaut, est-ce que c'est un problème, ça, cette économie d'enclave des mines industrielles?
Alors, j'allais justement dire que ce soit la corruption, le manque de transparence, la fraude fiscale, tous ces aspects-là ne sont pas propres aux mines artisanales. on a eu des cas, notamment RDC aussi, hein, où un rapport du Carter Center l'année dernière qui montre que l'évasion fiscale s'élève à plusieurs centaines de millions de dollars dans le cas de la GK mine. Oui, alors pour en revenir plus précisément à la question des mines industrielles au niveau local, oui, les mines industrielles ont du mal à démontrer leur impact économique au niveau local. Je pense qu'on peut le dire de cette manière. Ça ne signifie pas que les mines n'ont aucun impact. Hein. Elles ont des impacts positifs au niveau local, en termes d'emploi. Mais c'est vrai que la plupart des mines industrielles aujourd'hui dans le monde ont encore du mal à démontrer ces impacts.
Malgré les efforts qu'elles font parfois pour... en termes de communication, pour démontrer qu'elle finance des écoles et des centres de santé.
Oui, l'industrie minière a met de plus en plus de moyens dans la gestion de ses impacts et dans ce qu'on appelle l'investissement communautaire. Au niveau local, l'impact de ces activités-là est certainement minime par rapport à l'activité minière artisanale.
Il y a effectivement dans d'autres contextes, je pense notamment une étude qui est sur une mine d'or au Pérou, dans lequel effectivement, lorsque l'industrie s'est engagée à augmenter l'achat local de fournitures, alors on a observé un effet sur le revenu au niveau local. Donc il y a des situations dans lesquelles effectivement cet effet positif peut être observé. Après, ça dépend effectivement des stratégies qui sont mises en œuvre et de l'ampleur ici de ces achats. Donc au-delà, après, effectivement, des stratégies de communication de ces entreprises qui ont besoin de montrer aussi que ça bénéficie à l'économie locale. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut après mesurer l'impact réel dans le cas du Burkina.
Est-ce que vous pensez que l'existence de ces mines artisanales est suffisamment prise en compte par les gouvernements africains et intégrée dans leurs politiques économiques?
C'est compliqué. Il y a eu une vague en fait de réforme des codes miniers dans les années 2000 dans beaucoup de pays africains, dans lequel la priorité était d'abord d'attirer des investisseurs pour ouvrir des mines industrielles. Et donc il y a la question ici de la cohabitation entre mines industrielles et mines artisanales qui se pose. Ça peut être une source de conflit au niveau local très importante. Et dans beaucoup de cas, les gouvernements vont plutôt privilégier ici l'implantation de ces investisseurs qui effectivement sont peuvent apporter plus de ressources pour l'État. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Ce qu'on essaye de nous montrer, c'est qu'effectivement, la cohabitation entre les orpailleurs artisanaux et ces mines industrielles est un enjeu essentiel en termes de développement pour ces pays qui, à notre avis...
Pourquoi ?
Parce que l'activité au niveau local, encore une fois, du fait de ce dynamisme créé par les mines artisanales.
Alors, est-ce qu'il faut interdire les mines industrielles et tout réserver aux mineurs artisanaux, Benjamin Leno?
Non, d'un point de vue technique, de toute façon, ça n'aurait pas de sens. C'est-à-dire que les gisements sont exploités de manière différente. D'ailleurs, les mineurs artisanaux vont souvent aller travailler les déchets des mines industrielles. Alors, bon, ça, c'est complémentaire, c'est pas l'un ou l'autre. Sur la question de ce que doivent faire les gouvernements, alors, il y a des choses qui ont été faites, comme l'a signalé Rémi Bézilier. Il y a des gouvernements qui aujourd'hui saisissent de la question. Les institutions internationales le font aussi. La Banque mondiale est très active sur la question. Elle essaie aujourd'hui de faire une cartographie de l'artisanat minier au niveau mondial. L'OCDE travaille beaucoup sur la question. Bon, beaucoup d'acteurs se mobilisent. Le besoin est énorme et chacun est concerné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mines artisanales, c'est le mica pour les cosmétiques, le cobalt pour les batteries, le coltan pour nos téléphones portables, l'or pour nos bagues de mariage, etc., etc. Donc le travail, il est nécessaire au niveau des gouvernements qui ont aussi besoin d'aide dans certains cas, mais aussi par le secteur privé. Alors là aussi, on voit un certain dynamisme dans les chaînes d'approvisionnement. Alors que ce soit en amont ou en aval, il y a un besoin de programmes d'industrie qui peuvent se mettre en place pour essayer d'atténuer les impacts et de maximiser les opportunités de développement, ou même des acheteurs finaux, comme des grandes sociétés d'automobiles ou de téléphonie mobile, qui aujourd'hui sont en mesure de remonter la chaîne, doivent être en mesure de remonter la chaîne pour essayer de d'améliorer les pratiques dans les mines artisanales.
Rémi Bézilier.
Ce qu'on peut voir, cette utilisation de l'or ou d'autres ressources comme une sorte de commun pour les populations. C'est une sorte de commun dans lequel on peut s'interroger sur la meilleure manière de gérer cette ressource au niveau local. Donc vous pouvez le gérer de manière industrielle avec une capacité d'extraction beaucoup plus élevée, donc avec une efficacité entre guillemets économique beaucoup plus importante, ou vous pouvez considérer que ça doit être aussi quelque chose qui doit pouvoir bénéficier aux populations locales comme étant quelque chose qui leur permet aussi de sortir de la pauvreté. Et je pense qu'il ne faut pas avoir à dire qu'il faut privilégier l'un ou privilégier l'autre. Il faut juste, encore une fois, s'assurer que les deux puissent fonctionner de manière complémentaire comme cela a été dit.
Alors on va retourner vers nos archives sonores. Il y a 5 ans, Julie Vandal, alors correspondante de RFI au Nigeria, s'était rendue dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays. En 2010, un empoisonnement au plomb avait provoqué la mort de 400 enfants, et c'est l'utilisation de plomb par les mineurs artisanaux locaux dans des gisements d'or qui était à l'origine de ce drame. La dépollution de la zone a pris 3 ans, mais quand Julie Vandal et Awal Janio du service Aoussa de RFI s'y sont rendus en 2013, donc, le problème n'était toujours pas réglé. On écoute leur reportage.
Il est midi et les orpailleurs s'activent aux abords des puits du village de Yargalma. Lawali a fini sa journée, il rentre chez lui, un tamis sous le bras, mais pas de roche à concasser.
Nous avons pris des mesures pour éviter la pollution au plomb. Vous savez, nous ne rentrons plus dans le village avec de la boue, des roches ou avec nos outils. Nous nettoyons tous les tamis qui pourraient être souillés par les produits chimiques et par le plomb.
Du plomb, le sol de Yargalma n'en a plus. Le village fait partie des 8 localités qui ont été dépolluées. L'opération a pris fin. Fin mi-juillet, Mohamed Ouluga, commissaire de l'État de Zamfara, chargé des questions environnementales et des minéraux.
En 2010, quand le plomb a été découvert dans le sol, 7 villages ont d'abord été traités comme Dareta, Yargalma et d'autres. Depuis, on a complété la dépollution avec le village de Badjega. Des experts sont venus voir l'ampleur de la tâche. Il a fallu du temps car la situation y était pire qu'ailleurs.
L'opération a surtout pris du retard car les autorités ont tardé à verser les 2,3 millions d'euros promis. Un nettoyage jugé d'ailleurs partiel par les habitants de la zone. Adamou Tsiko est mineur à Bagega, la localité la plus affectée.
Sur 10 chambres de ma maison, seulement 2 ont été nettoyées. Vous voulez dire que ce sable contaminé n'a pas été enlevé ? Oui, je leur ai dit, ils ont promis de revenir et ne sont jamais revenus.
Des critiques que rejette Terra Graphics, le cabinet de consultance qui a piloté le travail de dépollution des sols. Chez Wonka, le coordinateur.
Tout cela est faux. Nous avons travaillé avec des experts internationaux et du matériel approprié. Nous avons testé toutes les maisons, on remplaçait le sable dans celles qui étaient testées positives. Bagega a été le dernier village dépollué, mais il faut reconnaître que d'autres villages sont toujours affectés par le plomb.
Quoi qu'il en soit, la crise est loin de prendre fin. La liste des villages affectés continue de s'allonger, comme explique Ahmed Kekou. Il a été directeur de la santé publique de l'état de Zamfara jusqu'en 2012.
Quand j'étais en poste, nous avions comptabilisé 36 villages affectés par le plomb. Bagega avait le taux le plus élevé. C'est une situation très dangereuse.
D'après une étude du centre sur le plomb de Zamfara que RFI a pu se procurer, au moins 30 villages sont actuellement contaminés par le plomb. Aucun programme de dépollution n'est envisagé par les autorités. Quant à l'activité d'orpaillage artisanal, elle n'est pas prête de cesser.
Un reportage, donc, je vous le rappelle, qui remonte à l'année 2013, qui a donc 5 ans, qui est signé Julie Vandal. Rémi Basilier, ce problème de pollution, est-ce qu'il est général dans ces mines artisanales?
Alors, général, je ne sais pas. C'est une vraie question. Et c'est une vraie question qui a des conséquences très importantes sur les rendements agricoles. Donc, en termes de développement, c'est une question qui se pose, je pense,
Parce que les terres sont polluées?
Parce que les terres sont polluées, effectivement. Dans le cas du Ghana, on a observé, par exemple, une baisse de l'ordre de 40% des rendements agricoles dans les zones qui étaient effectivement concernées. Donc, c'est un vrai problème. Et il faut effectivement trouver des solutions. Donc, soit on attend que les pouvoirs publics gèrent, donc c'est ce qui était le cas dans votre reportage, où on attend qu'effectivement qu'il y ait des actions de dépollution qui soient menées, soit on réfléchit à une organisation différente de l'activité. Donc on est encore une fois dans cette question de gestion des communs, comment les communautés aussi s'organisent pour gérer de manière la plus efficace possible aussi l'utilisation de cette ressource, en prenant en compte ici toutes les conséquences.
Benjamin Neno.
Il y a beaucoup de problèmes environnementaux liés à l'exploitation minière artisanale. Alors, c'est essentiellement lié à l'utilisation du mercure pour l'or. Encore une fois, j'aimerais vraiment insister sur le fait qu'il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui, on est capable de faire des mines artisanales d'or sans mercure. C'est possible, avec des taux de récupération un peu moindres, mais enfin, encore une fois, avec une formalisation adéquate, c'est tout à fait possible. Ce qui m'amène à un dernier point, qui est que, à l'instar des impacts en termes humains, sociaux, environnementaux, il n'y a pas de fatalité, et il y a une responsabilité commune aujourd'hui de travailler à que les conditions de travail de centaines de millions de personnes dans le monde soient améliorées, à l'instar de ce qu'il y a dans d'autres chaînes d'approvisionnement, mais qui souffrent de moins de problèmes d'image, que sont le café, le cacao. On parle de café équitable, de cacao équitable, et on a besoin de mines équitables demain.
De mines artisanales équitables?
Absolument. Et pourquoi pas? Et bah parce qu'il y a encore des mythes à déconstruire.
Eh bien, vous disiez que c'était une dernière question. C'était en tout cas la dernière réponse de cette émission, puisque nous sommes arrivés à la fin de cet écho d'ici, écho d'ailleurs. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous deux, Rémi Basilier et Benjamin Neno, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Cette émission était la dernière de la saison. Nous entrons maintenant dans une période de rediffusion et nous nous retrouvons pour de nouvelles aventures économiques au début du mois de septembre. D'ici là, portez-vous bien.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.